écoute bien ce que je vais te dire. Et je l'ai jamais dit à une autre fille.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Le secrétaire d'État fait allusion à l'accusation de mainmise du patronat sur l'université.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Radio Pulsar s'est rendu sur le campus de l'Université de Poitiers pour découvrir les différents statuts qui sont proposés aux étudiants. On va notamment parler des étudiants entrepreneurs grâce au pôle Pépite présent dans une trentaine d'universités en France, des sportifs de haut niveau et des artistes confirmés, en particulier dans le pôle musicologie. Ces mentions existent pour valoriser les activités en dehors du parcours universitaire, mais avant, nous sommes allés demander aux étudiants s'ils ont déjà entendu parler de ces statuts et s'ils en bénéficient.
Non, pas du tout.
Alors du coup, j'ai entendu parler du statut étudiant auto-entrepreneur et du statut étudiant artiste, mais comme ça ne me concerne pas, j'avoue que je n'ai pas plus regardé que ça. J'imagine qu'il y a des aménagements d'études, mais voilà, sinon je ne sais pas trop. Peut-être, on ne sait pas, dans un futur plutôt lointain, ça pourrait être intéressant.
Oui, j'en ai déjà entendu parler sur des questionnaires en ligne.
Oui, je connais sportif de haut niveau.
Non, pas trop, non. Moi, je pratique le basket, c'est juste pour le plaisir que j'en fais.
Pour présenter le statut d'étudiant entrepreneur et ses avantages instaurés en 2014 au niveau national, nous accueillons Sandra Choisy, responsable du pôle Pépite Nord-Aquitain sur l'Université de Poitiers.
Les pôles entrepreneuriat Pépite, aujourd'hui, ont deux outils majeurs, donc le statut national étudiant entrepreneur et le diplôme étudiant entrepreneur. Le statut national étudiant entrepreneur, c'est comme un peu un sésame aujourd'hui pour être pris en charge par un Pépite. C'est-à-dire que plus couramment, on connaît le statut sportif de haut niveau qui existe depuis longtemps. Eh bien, en fait, il faut imaginer que c'est à peu près la même chose, sauf que ce statut est dédié aux entrepreneurs, aux étudiants entrepreneurs. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un étudiant qui a un projet entrepreneurial peut demander ce statut. Donc, c'est assez simple, hein. Vous tapez statut national étudiant entrepreneur sur Google et directement, vous avez de quoi postuler. Et en saisissant Pôle Nord-Aquitain, directement, vous tombez sur notre sélection.
Est-ce que tout le monde peut bénéficier justement de ce statut? Est-ce qu'il faut venir avec un projet déjà défini?
Alors, oui, il faut avoir un projet. Aujourd'hui, quand on demande ce statut national étudiant entrepreneur, eh bien, il y a une candidature à remplir et un projet à saisir. Ce projet, ça peut être vraiment au stade de l'idée. On n'est pas obligé d'avoir un projet très défini au préalable, mais il faut avoir un projet entrepreneurial, en effet.
Pépite, ça signifie pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Mais quels sont les objectifs de Pépite?
Alors Pépite, déjà, c'est un dispositif national. Aujourd'hui, c'est comme un label. Hein. Donc c'est un service qui a pour objectif premier la diffusion de l'esprit d'entreprendre. Il y a vraiment un objectif pédagogique derrière. Donc c'est aller à la rencontre des étudiants qui ont une ambition entrepreneuriale, un projet quel qu'il soit entrepreneurial, les accompagner, les former, les mettre en réseau et puis suivre leur parcours pour qu'ils puissent avancer sur leur démarche entrepreneuriale en même temps que leurs études.
Il y a 33 pôles au niveau national. Est-ce que c'est toujours au sein d'une université alors ?
Oui, c'est un dispositif qui est porté par les universités et qui est financé en premier lieu par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pas que, évidemment, les régions ont une grosse part aussi dans le financement, la BPI et tout un tas de structures, hein, voilà, la fondation. Mais oui, c'est un dispositif porté par les universités.
Il y a deux parcours différents pour être formé à l'entrepreneuriat, campus et entreprendre. Et quelles sont leurs spécificités?
En effet, quand, une fois qu'on a été sélectionné et qu'on a le statut national étudiant entrepreneur, il faut faire un choix. Soit vous faites le choix d'une formule campus, soit d'une formule entrepreneur. La formule campus, c'est la formule la plus légère. C'est-à-dire que souvent, c'est les étudiants qui font ça pour une première année, sachant que ce statut peut se demander plusieurs années de suite. C'est un accompagnement collectif, juste l'opportunité de suivre des événements, de commencer à rentrer dans cette communauté d'étudiants entrepreneurs. Parce que c'est une grosse communauté de plusieurs centaines d'étudiants entrepreneurs. Donc voilà, pour une première année, on peut demander la formule campus. La formule entrepreneur, c'est une formule beaucoup plus crantée, comme on peut le dire. Hein. Donc là, on a une inscription sur le diplôme étudiant entrepreneur. Il y a des formations, il y a un accompagnement individuel dispensé par des coachs. Voilà, là, c'est un petit peu pour des projets où on sent qu'il faut avancer un peu plus.
Vous avez parlé du D2E, le diplôme d'étudiant entrepreneur, qui est facultatif mais donc obligatoire pour le parcours entreprendre, c'est ça ?
Oui.
Comment est composé ce diplôme ?
Alors, ce diplôme, il est composé donc de formations. Alors, ça va être une formation autour de l'innovation, une formation autour de la comptabilité, du design, du numérique. Il y a plusieurs parcours à choisir. Il y a un accompagnement individuel et puis il y a des exercices, des mises en situation qui sont prévues sur ce parcours de formation. Type des battles de pitch, des séances d'accélération, par exemple 24 heures pour créer, par exemple des start-up week-ends, par exemple. Enfin voilà, il y a plusieurs exercices un peu pour permettre à l'étudiante de vraiment accélérer son projet et rencontrer des acteurs clés sur le territoire pour avancer vraiment très vite.
Merci Sandra Choisy d'être venue en studio. Autre statut maintenant, être sportif de haut niveau à l'université, c'est bénéficier d'aménagements spécifiques pour les cours et les examens afin de pouvoir continuer à pratiquer de manière intensive. Ce statut a été créé en 1975 pour mieux assurer le suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. C'est d'autant plus important aujourd'hui avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 qui approchent. Pour en savoir plus sur ce statut de sportif de haut niveau, je me suis rendue au Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Poitiers, le CREPS, dans la halle Marie-Amélie Le Fur. J'ai donc pu m'entretenir avec Nathan Proust qui s'entraînait pour les championnats de France de lancer de javelot espoir qui ont eu lieu le 24 février. Il a d'ailleurs décroché la deuxième place du concours avec un record personnel de 69,57 mètres, devenant ainsi le vice-champion de France dans la catégorie espoir. Comment tu fais pour conjuguer et le parcours universitaire et le parcours sportif ?
Eh ben, du coup, j'essaye de vraiment de mettre à peu près la même énergie dans les deux. Donc ça fait des belles journées quand même parce que j'ai à la fois les cours la journée, l'entraînement le soir, puis les soins en kiné, puis le travail perso. Donc, ça fait des belles journées, mais j'essaye de concilier les deux et de le faire au mieux. Donc,
Combien d'entraînements par semaine ?
Je suis à 6 entraînements par semaine, donc tous les jours, sauf le samedi. Donc ça fait des entraînements à environ 2 heures par jour. Voilà, plus le travail perso des cours le soir, et puis la journée en semaine, les cours le matin et l'après-midi. Du coup, c'est vrai qu'il faut réussir à faire la part des choses. Mais quand on le voit des fois, et même on en a déjà parlé, quand par exemple en période d'examen où on a beaucoup de cours, c'est vrai que le soir on peut être plus fatigué à l'entraînement ou alors à la tête un peu ailleurs. Mais j'essaye quand même de faire la différence entre les deux et de ne pas mélanger les deux. Mais après, oui, c'est vrai qu'il faut le gérer aussi. Ouais.
Le stress de la compétition peut aussi influer sur les... Enfin, le stress des entraînements et des compétitions peut influer sur les cours aussi.
Oui, ça peut influer aussi. Après, moi, les compètes, souvent, ça me stresse, mais je suis assez confiant et c'est plutôt quelques jours avant la compète, donc c'est pas, ça ne me tient pas le stress un mois avant la compète. Donc j'arrive à bien le gérer.
Est-ce que tu bénéficies du statut sportif de haut niveau ?
Oui, j'ai le statut sportif de haut niveau. Après, c'est vrai, enfin, il faut être réaliste. À la fac, ça m'apporte pas grands avantages. J'ai le droit de rater des examens ou des TD. Enfin, ça me fait une excuse, ça me justifie mes absences. Bon, après, il faut quand même que je le rattrape de mon côté. Et pareil pour les cours magistraux. Donc... sur le moment, oui, c'est un avantage parce que je peux être excusé d'absence pour des entraînements ou des compètes. Mais après, ça me fait du travail quand même à rattraper. Donc,
Est-ce que c'est toi qui t'arranges avec les professeurs ou est-ce que c'est l'administration qui aménage ton emploi du temps pour les cours ?
Non, c'est plus de mon côté, moi qui m'arrange avec le secrétariat ou les professeurs. Et en fait, ouais, non, j'ai pas d'emploi du temps aménagé par l'administration quoi, en tant que tel.
Et comment on a le statut sportif de haut niveau ?
Nous, à l'athlé, c'est avec un niveau de performance. On a des critères de performance et ensuite on est éligible au statut de haut niveau. Après, il y a différents stades dans le statut de haut niveau et qui donnent plus ou moins de droits et d'accès sur nos saisons sportives. Et donc, c'est ça. Donc, nous, c'était avec des minima de performance.
Donc, par exemple, toi, c'est lequel ton statut ?
Moi, c'est le statut haut niveau. Après, le stade, le rang, je ne me rappelle plus, mais ouais, Ça fait maintenant la cinquième année que je suis sur les listes de haut niveau.
La liste, elle est que pour l'université ou c'est aussi pour les études, par exemple collège ou lycée ou dans les classes sport-études?
Ouais, c'est ça. C'est aussi au lycée, ça c'était valable aussi. Donc j'avais déjà le statut et au lycée, j'avais un emploi du temps aménagé, sport-études. Et après, ça permet aussi de rentrer sur des structures comme le CREPS de Poitiers. Et puis aussi d'avoir des aides et des stages ou autres au long de l'année, quoi.
Et comment ça... Là, on a pu voir un entraînement de sprint, enfin d'athlétisme, pardon. Et donc, du coup, comment ça se passe, un entraînement ou de manière générale?
Alors moi, du coup, je fais du lancer de javelot. Donc, j'ai dans la semaine environ deux entraînements de technique javelot par semaine. Donc aussi j'ai le mardi comme aujourd'hui une séance de sprint vitesse. Donc ça c'est pour améliorer ma vitesse sur ma course d'élan. Et j'ai aussi pas mal de prépa physique muscu parce que c'est assez complet comme discipline le javelot. Donc on a besoin d'avoir une bonne condition. Donc ça fait des entraînements assez variés au long de la semaine.
Merci encore à Nathan Proust de nous avoir laissé assister à un de ses entraînements et félicitations pour sa prouesse au championnat de France de javelot. Avant de parler d'art, on vous propose d'écouter Twist du groupe de rock londonien Bar Italia. Vous pouvez le retrouver dans le Top Campus de Radio Campus.
There were plates and chairs on the backs. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Après ce moment musical, il nous reste le statut d'artiste confirmé à vous présenter. Il sert à valoriser le parcours artistique de l'étudiant tout en adaptant son cursus de formation. Pour nous en parler, nous recevons Chantal Pellat, professeur agrégé, et Grégoire Boguil, docteur, tous deux au pôle musicologie de Poitiers. Déjà, je voulais vous demander ce que c'était le statut d'artiste confirmé.
Alors, c'est un statut qui permet à certains étudiants d'avoir des horaires aménagés, un aménagement de l'emploi du temps, quoi. Voilà.
Comment on peut l'obtenir ?
Le statut, il faut déposer un dossier de candidature et ce dossier est examiné par une commission qui décidera ou non de l'acceptation de ce dossier. Donc ce dossier, il est plutôt, dans notre département, chez nous ici, il est plutôt, enfin c'est pas nous qui faisons partie de cette commission, mais généralement le profil de ces étudiants, c'est plutôt des étudiants qui sont... qui préparent les concours pour entrer au Conservatoire de Paris ou de Lyon et qui ont besoin de temps pour travailler ou qui ont même les concours qui tombent comme en ce moment, quoi, au mois de février. Donc, qui s'adressent généralement à ces étudiants. Donc, ce qu'on leur propose en général, c'est un aménagement de l'emploi du temps. On les dispense de certains cours pour, pas des contrôles. Voilà.
Est-ce qu'il y a forcément une exigence de niveau, là en l'occurrence musical d'abord ou pas ?
Pour nous, oui, puisque c'est le statut d'artiste confirmé, c'est destiné à des étudiants qui sont quasi professionnels. Donc il faut bien quand même avoir un niveau musical, quoi.
Alors là, on parle de la musique parce qu'on est au sein de la musicologie. Mais est-ce que le statut d'artiste confirmé peut aussi concerner d'autres disciplines artistiques, y compris plastiques ?
J'imagine que ça peut concerner les arts du spectacle aussi, je pense. Je sais pas, moi j'imagine. Il n'y a pas de raison. Peut-être la danse aussi, les danseurs, il n'y a pas de raison non plus.
Combien il y a d'étudiants qui ont ce statut ici en musicologie ?
Oui, il y a deux étudiants.
Deux ?
Enfin un, parce qu'il y en a un qui a arrêté maintenant.
Les emplois du temps sont aménagés par l'administration ou est-ce que c'est un espèce de contrat tacite avec l'administration ou est-ce que c'est l'élève qui voit directement avec les professeurs ?
Comme je vous dis, on est un petit département, tous les profs connaissent tous les élèves très bien. Donc quand il y a un étudiant qui dit « je ne peux pas venir demain parce que ou la semaine prochaine je ne pourrais pas venir parce que j'ai une masterclass au conservatoire », on ne va pas faire les démarches auprès de l'administration pour dire « cet étudiant ne viendra pas tel jour ».
On fait preuve de souplesse pour les étudiants dans la mesure du possible. On fait preuve de souplesse pour les étudiants, même parfois, pas nécessairement ceux qui ont le statut. Hein. Oui. Mais on essaie d'être conciliant. Mais en tout cas, le statut d'artiste confirmé, c'est aussi un engagement d'une part et de l'autre.
Et du coup, est-ce qu'il y a des difficultés ou des défis particuliers à devoir s'adapter à ce statut d'artiste confirmés et aux adaptations dont ils ont besoin ?
C'est compliqué dans le sens où ils ont les étudiants auxquels je pense, ils ont une très très grosse charge de travail parce qu'ils ont leur travail au conservatoire ou par ailleurs et puis ici, ils ont des cours ici, donc ça leur fait des semaines très très chargées, je pense.
Oui, c'est que malgré cette souplesse, ils sont quand même censés, ils doivent suivre la scolarité normale, entre guillemets, donc la dispense de cours, comme on disait tout à l'heure, ne dispense pas des contrôles. Et nécessairement, ça nécessite de préparer les contrôles. Donc, ils ont leur travail à côté, ils ont les préparations des concours qui est quand même des fois très, très difficile, et le conservatoire. Donc, effectivement, c'est des étudiants qui ont beaucoup, beaucoup de choses à gérer en même temps.
Est-ce que certains cours peuvent se compléter ? Je pense par exemple à la formation musicale. A priori, s'ils ont un bon niveau au conservatoire, soit ils sont en fin de cycle de formation musicale ou ils ont déjà le diplôme. Est-ce que la validation d'acquis rentre dans le cadre d'aménagement ?
Ce n'est pas de la validation d'acquis, mais on peut, enfin nous, on permet à certains étudiants s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas du tout à leur avantage d'être dispensé, justement parce que vous me parlez de la formation musicale, mais c'est un cas particulier la formation musicale, de les dispenser de même de l'examen, si vous voulez. Mais à ce moment-là, comme en général, ils sont très très bons dans cette discipline, ils obtiennent un 18 ou un 20, même en général, oui. Souvent. Donc c'est pas du tout à leur avantage de pas se présenter au concours, à l'examen, parce que ça leur fait monter beaucoup leur moyenne. Donc en général, ils veulent pas, quoi. Enfin, moi, si j'étais à la place, je ferais pas. Donc ils viennent passer les examens, mais la formation musicale, c'est pas ce qui leur demande le plus de travail ici. Hein. Franchement, c'est pas ce qui leur demande le plus.
C'est quoi qui leur demande le plus de travail alors ?
La musique, l'analyse. Hein ?
Oui, c'est-à-dire qu'on est dans des disciplines. La formation musicale, c'est une discipline technique, donc des étudiants qui ont déjà un bagage musical, on va dire conséquent, n'ont pas vraiment besoin de travailler la formation musicale. Mais tout ce qui est les disciplines d'analyse, commentaires d'écoute ou histoire de la musique nécessite. Comment dire, un investissement qui est bien différent, une méthodologie disciplinaire qui est propre à la musicologie. Et donc, ils sont bien obligés de s'adapter à cela s'ils veulent réussir comme il faut.
Est-ce que certains cours peuvent se compléter entre la formation qu'ils peuvent recevoir au conservatoire et la formation qu'ils peuvent recevoir, là en l'occurrence, en musicologie ?
Oui, bien sûr, il y a de la complémentarité, mais de façon générale, le conservatoire insiste à ce qui est son rôle aussi sur les disciplines techniques, comme la formation musicale, de l'analyse ou de l'écriture. Mais nous, on apporte aussi une dimension culturelle, axée aussi un peu sur la recherche.
Est-ce que c'est un statut qui doit être demandé et renouvelé chaque année ou est-ce qu'on l'a pour toute sa formation ?
Non, il doit être renouvelé chaque année.
Et on peut l'avoir sur plusieurs années d'affilée ? On peut la demander tous les ans ?
Bah, pourquoi pas ? Enfin, on n'a jamais eu ce cas de figure, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Enfin,
C'est plus sur le profil des étudiants qui demandent ce statut. Je sais qu'en collège ou en lycée, il y a déjà des équivalents, on va dire, qui existent avec les classes à horaires aménagées. Est-ce que c'est des gens qui sont souvent passés par ces parcours, si vous savez ou pas ?
C'est difficile de répondre parce que là, pour le coup, on n'est pas toujours au courant de leur profil à eux. Si on les connaît comme étudiants, si on sait ce qu'ils font actuellement, on ne sait pas forcément ce qu'ils ont fait auparavant. Donc ça, c'est une question un peu délicate pour répondre.
D'autant que les horaires aménagés, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à la troisième. Après, c'est au lycée, c'est une spécialisation. Oui. Et je ne sais pas s'ils font beaucoup s'il y a beaucoup de relations avec, mettons, leurs cours au conservatoire, au lycée, peut-être, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est surtout au collège. C'est-à-dire que c'est un statut qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps, ici. Il y a 4 ou 5 ans, enfin, je veux, voilà. Hein. Moins de 10 ans, je suis sûre.
Même moins que ça.
Moi, j'irais 5 ans, quoi.
Au grand maximum
quoi, ici.
Oui.
Mais c'est récent, le statut a été créé récemment au niveau national ou c'est spécifiquement pour l'Université de Poitiers ?
On pourrait regarder, mais je crois que c'est au niveau national. Le statut pour les sportifs, ça existe depuis longtemps, mais pour les artistes, je crois que c'est assez récent.
Est-ce qu'il y a une reconnaissance particulière sur le diplôme, une mention quelconque de ce statut ou pas du tout ?
Non, parce que encore une fois, ils sont censés faire les examens comme n'importe quel étudiant. C'est simplement un aménagement pour qu'ils aient davantage de temps à consacrer à l'instrument. Donc ça ne dispense pas des contrôles, donc a priori, il n'y a pas de raison que ce soit porté sur le diplôme.
Et puis nous aussi, on a une filière ici, en lien avec le pôle Aliénor, qui forme déjà des musiciens-interprètes. Alors c'est assez paradoxal, parce que tous ces étudiants, ils pourraient avoir le statut d'artiste, enfin vraiment ils auraient le profil pour avoir le statut d'artiste confirmé, mais comme ils ont déjà une filière spécifique, voilà, on va pas refaire un aménagement d'un aménagement d'un aménagement, quoi, voilà.
Et est-ce qu'il y a un nombre limité d'étudiants qui peuvent avoir ce statut, que ce soit dans la promotion ou dans l'université, ou c'est juste qu'il n'y en a pas tant que ça qui le demande ?
Logiquement, si vous voulez, dans une promotion, on ne peut pas avoir sur une promotion, on ne peut pas avoir 80% de statuts aménagés, quoi, sinon ça ne marche plus. Hein. Donc voilà, mais on n'en est pas là. Hein.
On n'en est pas là, et puis voilà. C'est sûr qu'encore une fois, il faut insister sur qu'il faut que ce soit déjà des profils de gens qui techniquement ont déjà un certain niveau. Donc quelqu'un qui commencerait la musicologie, enfin la musique en entrant à l'université, ou s'il n'a pas des 8 ans, 10 ans de musique avant de rentrer à l'université, c'est des profils qui évidemment seraient un peu moins logique pour demander ce statut.
Merci encore à Chantal Pellat et Grégoire Boguil d'avoir participé à cette émission pour nous parler du statut des artistes confirmés. On a surtout évoqué le cas des élèves musiciens, mais cela concerne toutes les disciplines artistiques à l'université. Pour plus d'informations sur tous les statuts qu'on a évoqués, donc entrepreneurs, artistes et sportifs, vous pouvez vous rapprocher des universités, notamment au moment des rentrées universitaires.
Cette émission a été réalisée par Radio Pulsar à Poitiers pour Radio Campus. C'était Julie Duo à la régie technique et à l'animation.
Univox. Univox. Univox.
Look, Iranian women inside the country leading a movement, leading a revolution right now. For 40 years they've been fighting. They've been pushing back the boundaries. The brutal death of Mahsa Amini is becoming a turning point for Iranian women. They actually force women to wear hijab because this is a tool for the Iranian regime to control the whole society through women.